Je vous remercie fortement de votre recueil si amical. Comme vous avez dit, je vais présenter mes pensées en langue française et j'espère que vous tous me pardonnez toutes les fautes dans ma présentation. Voilà. L'idée aujourd'hui est de vous présenter mon livre à partir par une analyse d'un poème et par une réflexion sur cette lecture. Donc, je vais vous proposer aujourd'hui la lecture critique, analytique d'un sonnet de Rainer Maria Rilke, en d'autres termes, son analyse. Qu'est-ce que fait son individualité, sa particularité? C'est au centre de mon travail et de ma réflexion, l'individualité. Et pour commencer, il faut peut-être esquisser quelques présuppositions pour la compréhension d'un poème, de ce poème et des poèmes en général. Et je vais vous montrer et proposer deux formes de critique comme présupposition de la compréhension. Premièrement, ce sont des fondements de Rilke lui-même, ce que j'appellerais premièrement l'étude idiomatique de lui, ou en d'autres termes, la particularité idiomatique, lexicale et systématique dans l'œuvre de Rilke. Mais aussi, deuxièmement, le contrôle de la maîtrise qu'il exerçait sur sa vie dans toutes ses facettes, l'ascétisme qui façonnait son existence. Et troisièmement, enfin, le cycle des sonnets en tant que monde en soi. Ce sont des fondements dont il faut parler. Deuxièmement, il y a les fondements de ma lecture critique. Ces fondements incluent la réflexion de ma lecture critique, l'histoire des lectures comme espace discursif, et puis une notion que j'exprimerai grâce à un terme académique venant de l'anglais, qui est celui de « principle of charity », ou en d'autres termes, le fait de respecter des opinions contraires avant que de les critiquer. Voilà, ce sont les deux fondements du côté de Rilke et du côté de ma propre lecture critique. L'idée fondamentale de mon livre est la suivante. Rilke, je pense, cherche à établir un accès à Orphée, à la tête du cercle orphique, alors même que la tradition orphique n'y mène pas. Pour ce faire, il développe une critique épistémologique de la poésie. Il conçoit à travers le poème un système linguistique réflexif qui est censé lui permettre cet accès. Or, comme je vais le montrer, il le conçoit en vain, avec des résultats poétiques, évidemment. Mon programme pour cette matinée suit quatre points, quatre aspects. En premier lieu, j'aimerais vous parler de la notion de nécessité en tant que principe de la compréhension du sonnet dont il va être question, sonnet qui commence par les vers « au komm und geh »,« au vient et va », dans la traduction que j'ai effectuée aux côtés de Jean Bollack et dans une autre traduction faite par Armel Gern sur les deux feuilles que nous avons distribuées, vous trouvez le poème en langue allemande et les deux versions françaises. Donc je vais vous présenter ensuite mon analyse du sonnet. Puis, je proposerai un éclaircissement des mots-clés comme Stelle, Mädchen, Tanz, ainsi que du travail effectué sur le nouveau sens idiomatique de ces mots-clés par Rilke dans ses lettres, et dans ses traductions des œuvres de Paul Valéry. Et en conclusion, je me pencherai sur une posture majeure dans l'histoire des conflits de l'interprétation de l'œuvre de Rilke, c'est l'interprétation de Hans-Georg Gadamer dans le cadre de son herméneutique philosophique. Et puis, s'il nous reste assez de temps, je vais vous montrer la réception productive poétique chez Paul Celan. Commençons par la notion de nécessité. Je vous renvoie à l'extrait numéro 2 sur la feuille que j'ai fait passer et je vais lire une citation de Friedrich Schleiermacher pour après expliquer cette citation. Schleiermacher dit en allemand: zwei entgegengesetzte Maximen beim Verstehen. Erstens, ich verstehe alles, bis ich auf einen Widerspruch oder Nonsens stoße. Zweitens, ich verstehe nichts, was ich nicht als notwendig einsehe und konstruieren kann. Dans la traduction de Isabel Kalinowski, deux maximes opposées dans la compréhension. Premièrement, je comprends tout jusqu'à ce que je tombe sur une contradiction ou non-sens. Deuxièmement, je ne comprends rien dont je ne vois pas et ne puisse pas construire la nécessité. La compréhension en fonction de cette dernière maxime est une tâche infinie. Voilà, ce que Schleiermacher dit ici, c'est qu'il y a deux démarches opposées de compréhension. L'une prend pour base les expériences et la valeur propre du lecteur, avec lesquelles il essaie d'aller le plus loin possible dans la compréhension profonde du poème. L'autre s'attache au caractère étranger du texte littéraire et s'efforce de rétablir les difficultés de compréhension. Afin d'illustrer ces deux formes de compréhension fondamentalement distinctes, j'aimerais vous proposer deux exemples, voir l'extrait numéro 3. Hans-Georg Gadamer, dont il était question déjà, était d'avis que ses ressources propres, qu'il puisait de ses lectures et de ses expériences de vie, étaient suffisantes pour comprendre un poème. Dans son livre « Wer bin ich, wer bist du, qui suis-je, qui es-tu », il raconte qu'il s'est rendu une fois sur une plage hollandaise en emportant un recueil de Paul Celan, Atemkristall, cristal de souffle. Et là, il tombe sur la phrase Schattengebrech deiner Hand. C'est pas vrai, c'est pas correct. J'ai fait une erreur dans la citation ici. C'est pas Handgebrech, mais Schattengebrech deiner Hand. Et voilà, il rencontre cette tournure, il regarde sa main, Hand, il plie les doigts comme ça, comme s'il se cassait, brechen, et continue à lire le poème en partant de cette signification d'une main repliée, comme ça. Voilà, il était sur la plage. Ce sont des livres, ce sont des encyclopédies. C'est ce que son expérience lui permet de comprendre. Et la base de cette compréhension est son modèle philosophique du dialogue, compris comme la réunion d'un locuteur A et d'un lecteur B. Le locuteur serait Celan et le lecteur serait lui. Mais en réalité, Paul Celan emprunte le terme Gebrech au langage synégétique, dans lequel il désigne la terre retourné par les sangliers. Donc c'est l'imagination fausse de la part de Gadamer sur la plage hollandaise. Le second exemple que je peux vous donner, c'est lui de l'épitaphe de Rilke que vous connaissez mieux que moi, que Rilke avait composé pour son propre tombeau. Rose, oh reiner Widerspruch, Lust, niemandes Schlaf zu sein unter so viel Liedern. rose aux pures contradictions, désir de n'être le sommeil de personne sous tente de paupières. L'énoncé transforme la signification du mot rose. Dans un premier temps, quand Gadamer, on se contente de l'usage courant. Nous savons bien que la rose peut symboliser la contradiction entre, d'un côté, son parfum et sa tendre fleur, et de l'autre, les épines. Nous savons aussi que la rose est symbole d'amour, de désir. Mais l'adjectif pur dans le premier vers soulève déjà quelques interrogations. Le principe dont il est question ici n'est développé que dans les deuxièmes vers. La rose y devient un sommeil, en l'occurrence le sommeil de personne. Autrement dit, si nous prenons l'expression dans son sens positif, le sommeil d'une personne éteinte. Dès lors, la rose métamorphose de la mort qui est elle-même la sœur du sommeil est devenue synonyme de mort. Mais la transformation ne s'arrête pas là. En allemand, le mot paupière est homonyme du mot champ, lieder. Les chants qui ont été chantés, la rose évolue donc en leur compagnie, elle fait partie de ces chants. Dès lors, après avoir connu une négation multiple, sommeil, personne, paupière, la rose désigne l'art qui est familier de la mort. Cette signification était préfigurée par l'attribut pur et on voit bien qu'il ne s'agit donc plus de la rose qui fleurit dans le jardin. La nécessité dont parle Schleiermacher s'est ainsi installée dans les deux vers de l'épitaphe de Rilke par les seuls moyens de la syntaxe et de la composition. J'aimerais approfondir la force de cette stratégie littéraire de la nécessité en vous proposant une lecture analytique du 28e siècle sonnet du deuxième cycle des sonnets à Orphée. Voilà, c'est maintenant la deuxième partie de ma conférence ce matin. En seulement quelques jours, comme vous savez bien, au mois de février 1922, Rainer Maria Rilke compose, pour ainsi dire, d'un seul jet, un double cycle de 55 poèmes qu'il intitule « Les sonnets à Orphée ». Ce titre est l'expression d'une dédicace. Les sonnets s'adressent en effet à Orphée, sonnets à Orphée, s'ancrant ainsi au cœur de la tradition poétique, antique, mystique et orphique. Rilke se réfère de fait à trois récits des métamorphoses d'Ovide qu'il reprend dans ses poèmes. Le récit d'Ovide qui chante Orphée, tué par les Ménades, et dont la tête et l'allure seront charriées intactes par le fleuve Hébron jusqu'à la mer. Puis, l'histoire des animaux et des arbres qui se rassemblent autour du chanteur. Et enfin, la descente aux enfers d'Orphée qui veut aller chercher son épouse Eurydice. Rilke insère une seconde dédicace au début des sonnets. Les deux cycles portent en frontispice, écrit en tant que monument funéraire pour Vera Okama-Knob, geschrieben als ein Grabmal für Vera Okama-Knob. Rilke évoque ici Vera, une danseuse morte à 19 ans, et Rilke connaissait le portrait réalisé par sa mère, le portrait de sa mort, réalisé par sa mère, Gertrude Okama-Knob. Tous deux, la danseuse et Orphée, se rencontrent dans l'avant-dernier sonnet que je vais lire maintenant. Avant de poursuivre cette réflexion, j'aimerais vous lire le poème. D'abord en allemand, puis en français, dans la traduction d'Armel Gern, qui a le mérite d'une grande clarté. Et pour ma lecture et pour notre discussion après, j'ai mis encore sur la feuille une deuxième traduction par Jean Bollack et par moi. Voilà. O komm und geh. Du, fast noch Kind, ergänze für einen Augenblick die Tanzfigur zum reinen Sternbild einer jener Tänze, darin wir die dumpf ordnende Natur vergänglich übertreffen. Denn sie regte sich völlig hörend nur, da Orpheus sang. Du warst noch die von damals her bewegte und leicht befremdet, wenn ein Baum sich lang besann, mit dir nach dem Gehör zu gehen. Du wusstest noch die Stelle, wo die Leier sich tönend hob, die unerhörte Mitte. Für sie versuchtest du die schönen Schritte und hofftest, einmal zu der heilen Feier des Freundes Gang und Antlitz hinzudrehen. Oh, va et viens, toi, si près de l'enfance encore, parachève pour un instant la figure de danse en la pure constellation de l'une de ces danses où nous surpassons, nous, fait pour passer la sourde orgoneuse nature. Elle, en effet, ne s'émut en entier qu'en entendant le chant d'Orphée. Tu étais toi, celle encore de naguère émue ici, surprise un peu quand après longue réflexion, un arbre avec toi se prit à aller d'après l'oreille. Tu connaissais toujours cette place où la lyre retentissante se levait, le centre fabuleux. Tes plus beaux bas, tu les tentas pour elle, et tu avais l'espoir une fois de tourner la face et les pas de l'ami vers la fête absolue. Avec le « ich » et le « doux », un « moi » et un « toi », il y a déjà Rilke qui nous donna une clé pour la compréhension. Le poème s'ouvre sur une invocation. D'emblée, une situation pronominale est donnée. Un « nous » ou un « je » qui s'avère être le porte-parole d'un groupe « nous » s'adresse à un « tu ». Les chanteurs de la suite d'Orphée qu'on connaît dans le cycle, qui ont déjà été abordés dans certains des poèmes précédents du cycle, veulent s'essayer à un nouveau mode d'expression, la danse ou la pantomime. La danse devient pour eux, juste à la fin du cycle, l'essence même du mouvement orphique. Komm und geh. Va et viens. Trois options se présentent à nous, mutuellement resserrées, mêlées les unes aux autres, comme en une strette, une fugue musicale. Premièrement, c'est « viens » comme dans une épiphanie, « viens » et « danse ». Deuxièmement, le « va et vient » comme celui des danseurs ou acteurs sur la scène, « comme und geh ». Et troisièmement, « vie et meurt », représentant la vie et la mort. Et ce motif très dense signifie ainsi que l'alternance entre la vie et la mort constitue le sens de la danse après l'épiphanie. C'est ce que je veux dire. Voilà les trois sens de cette phrase entrent dans un nouvel sens. Ça veut dire la vie et la mort constituent le sens de la danse dont il est question ici. Voilà. Kind, enfance, l'enfance dans l'une traduction et enfant chez Bollack. On pourrait qualifier ce tu de privilégié. du fast noch Kind. Voilà. Sais-tu du privilégié? C'est ce qu'affirme la caractérisation presque enfante encore au vers 1. L'enfant s'oppose à la jeune fille des sonnets antérieurs. Les jeunes filles ont déjà une histoire dans le cycle des sonnets. Jusque-là, elles ont été définies comme des protagonistes de l'art. Et voilà donc une clé qui va vous permettre de mieux comprendre ma méthode. Le cours du poème livre lui-même la justification poétique de la référence, faite au contexte du cycle et pas faite au vocabulaire quotidien que nous connaissons, faite au contexte du cycle entier. Je pense ici au principe de nécessité que j'ai exposé tout à l'heure. Cependant, le présent sonnet va plus loin. Dans l'esthétique de Rilke, l'enfant est plus proche, de la pureté, plus proche que les filles, plus proche de la pureté, de l'origine de l'art, voilà, que les jeunes filles. Ce qui m'amène à mon quatrième point. J'ai énuméré mes points, donc nous sommes jusqu'avant le quatrième point. Ergänze für einen Augenblick. Parachève pour un instant la figure de danse. La danseuse elle-même entre dans la ronde pour compléter la figure de danse. Pour résumer ça brièvement dans la traduction de Bollack et moi, toi, presque enfant encore, cette figure de danse complète-la. Ergänze si, pour un instant. L'objet est un tout, ou plutôt une totalité, Gänze dans Ergänzen. Car dans le langage idiomatique de Rilke, dans sa manière singulière d'utiliser la langue, le préfixe er possède une signification particulière, à savoir une signification productive. La productivité se concentre dans la seconde partie du verbe Ergänze. Ce processus est préfiguré par le découpage des syllabes que l'on retrouve ailleurs dans le cycle. Dans le 25e sonnet, par exemple, du premier cycle, Rilke signe le verbe « erinnern » en un « erinnern » pour signifier que lorsqu'on se rappelle quelque chose, qu'on se souvient de quelque chose, on l'intègre à notre intériorité, on l'intériorise. Erinnern. Innen, c'est l'intériorité. Donc, ergänzen signifie que lorsqu'on ajoute quelque chose à une entité, une totalité se constitue, que quelque chose tend à devenir une totalité. Ou en allemand, indem man etwas hinzufügt, entsteht eine Gänze. La tournure für einen Augenblick, pour un instant, ne relève pas de l'allemand littéraire au sens strict. Comme souvent, Rilke a recours à une expression du langage courant sur le modèle de va-et-vient. La tournure familière für einen Augenblick. On peut dire à une secrétaire, kommen Sie für einen Augenblick vorbei in mein Büro. La tournure familière für einen Augenblick, cependant, suggère à travers la préposition für, pour, l'orientation vers un but. Un exemple de langue familière relevée, propre au style de Rilke. On peut mieux comprendre maintenant les vers 2 à 5. Et je le cite encore. Cette figure de danse complète là pour un instant en pure constellation, faisant l'une de ces danses où nous l'emportons en éphémère sur l'ordre obtus de la nature. Une hiérarchie se constitue, qui suit la composition du poème. En bas, on a la nature qui crée déjà de l'ordre, mais d'une manière sourde et primitive, sur l'ordre obtus de la nature. Ensuite, les danses, il y a les danses et les danseurs. Puis, l'abstraction de toutes ces danses par la figure de danse, Tanzfigur. Et en fait, la constellation en temps, que transcendance de cette figure de danse. C'est un surpassement par la variation d'une abstraction. On passe de la figure de danse à la constellation. La constellation, c'est un mot encore plus abstrait que l'abstraction, la figure de danse. Quant à la composition totale, voilà, c'est mon prochain point. Je vais revenir à cette hiérarchie de l'abstraction dans ma lecture après. Maintenant, j'arrive à la prochain point, et je traite les trois niveaux temporels dans le sonnet. Quant à la composition totale du sonnet, on peut les distinguer, les trois niveaux temporels. Premièrement, on a une présence, comme temps de l'espoir. Ce sont les vers 1 à 5 que nous connaissons un peu maintenant. Après, il y a le passé, où l'on a tenté de s'approcher de d'Orphée. Ce sont les vers 7 à 14. Et entre les deux temps, on a une qu'on peut appeler en allemand une Urszene, un événement hors de l'histoire et hors du temps dans les vers 5 et 6. Et si les cinq premiers vers évoquaient l'épiphanie attendue de la danseuse, au commandé, c'est un espoir, le poème en définit désormais les conditions. Afin de répondre à cette visée critique, il remonte dans le temps. D'abord jusqu'à un événement d'avant le temps, ce sont les vers 5 et 6, où la danseuse était proche d'Orphée. Puis, vers 7 à 14, jusqu'à sa tentative ou ses tentatives de reproduire cet événement dans l'histoire. Donc il faut se concentrer, c'est le point 7 de ma lecture, il faut se concentrer sur ces deux vers 5 et 6 qui sont très difficiles à comprendre à mon avis. Car elle n'est mue pleinement, oui, que lorsque Orphée chantait. Ou dans l'autre traduction, elle en effet, c'est la nature, ne s'émue en entier qu'en entendant le chant d'Orphée. La compréhension du poème, et c'est la thèse que j'expose ici, découle ainsi de la concentration d'un instant passé, de l'instant où celle qui devient plus tard la danseuse a rencontré Orphée. Et cette analyse permet de dresser un constat général lorsqu'une telle concentration a lieu, völlig, en entier, le mouvement se confond avec l'écoute. Donc on a « Sie bewegte sich völlig nur, da Orpheus »« Sie bewegte sich völlig nur, da Orpheus sang » Ce Regen a deux sens. L'un, c'est émouvoir, et l'autre, c'est mouvoir. Donc, c'est un sentiment psychologique, et c'est seulement le mouvement de la danse. Donc, c'est Regen est déjà lié à la danse. Et dans la logique de ce vers, on a trois étapes. Premièrement, c'est le chant d'Orphée. Deuxièmement, il y a quelqu'un, c'est la nature, qui entend, c'est entendre le chant d'Orphée. Et après l'entendement, il y a la danse, ou presque la danse. La nature ne peut pas encore danser, mais elle peut se bouger. Donc dans le vocabulaire, en d'autres termes, je vous dis que le mouvement de la danse écoute et comprend. Ou on peut dire qui entend produit, c'est la danse, comme production, et crée quelque chose. Donc on a trois étapes, c'est le chant d'Orphée, c'est la réception, c'est la compréhension, et troisièmement, en résultat de cette compréhension, il y a la danse comme création, comme création. Ou pour le dire autrement, dans le vocabulaire des sonnets de Rilke, l'écoute induit une dimension productive. Cette poétique s'énonce comme suit: qui écoute parle, et en même temps la parole implique une interprétation de ce qui a été entendu, et un outil herméneutique dont Rilke fait un usage original. Ça veut dire la danse accomplit ici cette analyse et cette interprétation en se fondant sur le chant orphique comme art de l'écoute. Ainsi, le poème traite de la créativité, la création par l'écoute et la danse, comme possibilité de la compréhension. La question qui se pose ici est donc: comment Orphée peut-il être entendu? Et la réponse est dans la créativité, en créant Orphée. Voilà, c'est un argument, j'avoue, très difficile, un argument dans le poème très difficile à suivre, et on peut en parler après, peut-être. Et la troisième, donc j'aborde maintenant le troisième niveau du temps, ce sont les vers 7 à 14. L'espoir est placé en la perfection de la danse, ces danses, la figure de la danse, à l'écoute d'Orphée. Voilà donc la faculté privilégiée de la danseuse qui se manifestera peut-être dans un moment futur. Cette troisième partie du poème explique les préalables historiques nécessaires pour que l'invocation du début ne soit pas articulée en vain. Du warst noch die von damals her bewegte. Tu étais encore cette créature emportée alors, etc. Mon neuvième point. C'est une tentative de la danseuse pour régénérer la scène initiale qui est évoquée ici. La présence de la danseuse n'est articulée qu'indirectement. C'est là une critique épistémologique. Le scepticisme du poème. Le sujet poétique ne peut pas en dire davantage. Du warst noch die von damals her bewegte. Le poème ne dit pas, voilà, tu étais là et j'ai assisté, moi, le qui parle ici, assisté à la danse auprès d'Orphée. Mais du warst noch die von damals her bewegte, c'est ce qu'on peut observer maintenant, c'est l'effet. C'est l'effet du chant d'Orphée dans cette danseuse, mais on ne peut pas observer la danse immédiatement. C'est ce que j'appelle scepticisme. Voilà ce que je dis. Comme je dis, le sujet poétique ne peut pas en dire davantage. L'avenir esquissé dans les premiers vers serait l'articulation explicite d'un événement préhistorique, suivant les premiers essais dans l'histoire. Die unerhörte Mitte, c'est ce milieu inouï ou fabulé, fabuleux selon les traductions. Die unerhörte Mitte, c'est le silence. Et le silence est préalable à une réception productive. Les danseurs le savent bien, ils le savent à l'instar des maîtres chanteurs, wie die Meistersinger chez Wagner. Ils l'ont appris. Mais comment faire à un moment donné? Leur manuel, c'est le cycle des sonnets lui-même, qui enseigne dès le tout premier poème le principe du silence. Je rappelle le mot Verschweigung dans le premier sonnet. Le silence fait partie du métier des artistes et des danseurs. Tout était silencieux, relate le locuteur du tout premier sonnet, comme j'ai dit. Dans le sonnet « Au vient et va », le tiré qui précède ce « milieu inouï », au vers 11 donc, n'a pas de signification à l'oral. Il s'agit d'entendre ce qui n'a pas été entendu. Ainsi, dans le souvenir réfléchi, la signification du mot « unerhört », prenons sa traduction la plus littérale, « inouï », se transforme à son tour. Trois sens, de nouveau différents, sont alors présents. « Unerhört », donc je parle du mot « unerhört », « inouï » maintenant. Le sens trivial du particulier, « das ist ja unerhört », on n'a jamais vu ça, entendu ça. Et il est à noter que le français d'aujourd'hui conserve surtout cette première connotation. En posant la question à des locuteurs français que j'ai fait, on se rend compte qu'ils ont presque oublié la signification première d'inouï, littéralement pas oui, inattendu, encore jamais entendu. Voilà, c'est le sens trivial. C'est comme en allemand, presque. Deuxièmement, il y a un sens poético-herméneutique, non entendu, nicht gehört, dans le sens d'ausculter, comme un médecin. En allemand, on a le mot der hören, ich der hörte etwas, c'est le sens là. Et troisièmement, il y a un sens encore familier, plus familier que le sens poético-herméneutique, c'est le sens théologique, von Gott nicht angenommen, non accepté par Dieu. Ce triple unerhört implique une rupture de la tradition. Avec son chant extraordinaire, Orphée ne trouve pas de salut auprès de ses disciples. Il ne l'écoute pas. Il aurait pourtant fallu l'écouter, erhören, c'est-à-dire littéralement le crier, tout en l'écoutant. La construction parallèle de ergen se renforce d'ailleurs cette interprétation du préfixe erhören. Le centre, dans le vers 11, ou le milieu, reste incrié, comme Orphée, dont il a dû définir le jeu. Tout est ici du point de vue de poème hypothétique. Le 11e point, hinzudrehen, tourner vers. Le dernier mot, hinzudrehen, tourner vers, dans le vers 14, est lié, il faut le dire explicitement, est lié syntaxiquement avec ce qui est qualifié de Mitte, ou au centre dans le vers 11. Le fur, si, pour lui, dans le vers 12, désigne le centre, dit Mitte, féminin en allemand. Il est accompagné de deux verbes, versuchen, tenter, et hoffen, espérer, dans l'espoir de. Se tourner vers est l'objet de l'espoir qui, après rupture avec la tradition, est dirigé vers le centre qui dessine par le fur aussi l'instant antérieur comme un paradoxe. Il faut expliquer comment le centre fabuleux ou le milieu inouï, dans notre traduction, peut être atteint. Comment ? Et pour le savoir, il s'agit d'éclaircir le double référent du génitif des Freundes. C'est intéressant maintenant. Voilà, le poème même explique comment il faut comprendre ce centre fabuleux. Et c'est mon dernier point. Et le point est sur une figure rhétorique qu'on appelle apokoinou. L'apokoinou, c'est une figure où un mot se réfère à deux parties d'une même phrase. Un mot se réfère à deux parties d'une même phrase. Dans la Tournure zu der heiligen Feier des Freundes Gang und Antlitz. On peut mettre le mot des Freundes en relation avec zur heiligen Feier et avec Gang und Antlitz. Et cette figure rhétorique traditionnelle de l'apokoinou crée un problème de l'interprétation classique, ça veut dire un problème qui finira par conduire à sa solution. La double référence, voilà, ça veut dire que avoir deux sens dans une phrase a un sens lui-même. La double référence ne peut être reproduite dans la traduction française et aussi en anglais. On ne peut pas traduire la double référence. Il faut prendre une décision et les deux traductions françaises que je vous présente aujourd'hui ont pris des différentes décisions. Les Vers, und hofft es einmal zu der heilen Feier des Freundes Gang und Antlitz hinzudrehen, les Vers 13 et 14, formule deux hypothèses qui sont liées entre elles. Un processus mystique et un processus historique autour d'Orphée. Si l'on parle de la fête absolue de l'ami, l'événement qui fonde l'espoir de la danseuse et la célébration. C'est un culte dont il y a question. Elle y prendrait part avec sa démarche et son visage. Il s'agirait d'une cérémonie religieuse à la mémoire d'Orphée. Si l'on parle plus tôt, c'est l'autre possibilité, de la démarche et du visage de l'ami, l'événement constituerait plutôt une évocation de celui-ci qui transcenderait le niveau historique dans lequel la célébration et l'histoire du rite restent ancrées. Notre tâche est de clarifier le sens de cette figure rhétorique car ces vers sont l'aboutissement de l'expérience de pensée à laquelle le poème est consacré dès lors que le souhait du début est formulé. Où vient et va ? Le poème doit révéler sous quelques conditions ce souhait peut être réalisé. La solution, pour moi, est la suivante. Par la mort de la danseuse qui se tourne vers Orphée, on peut intégrer les deux possibilités. La danseuse s'est appropriée le pas et le visage de l'ami Orphée. Dans cet état, elle peut assister à la fête de l'ami. Et ce n'est possible qu'à travers la mort de la danseuse. Elle peut rencontrer l'Orphée dans l'état de mort. Sa mort est le préalable de sa danse parmi les danseurs. Et, pour finir, il faut dire que c'est une condition impossible. Et dire ça est le résultat du scepticisme du poème. Voilà, le poème nous montre ce qu'il serait nécessaire afin que l'espoir des danseurs se réalise, mais les préalables ne sont pas possibles. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi dans cette lecture assez dense et j'espère que vous acceptez mes excuses au nom de Rilke. Donc, pour arriver presque à la fin de ma conférence, je vais aborder le troisième point de ma présentation. C'est la réflexion sur les mots du poème, sur quelques mots du poème. Je veux dire que la particularité des sonnets à Orphée réside dans ce que j'appellerais la lecture critique du préalable, des préalables. Ici, nous avons deux préalables. Le premier est historique et le second poétique. Le cycle même des sonnets, comme j'ai évoqué ça à plusieurs reprises déjà. Pour parler des préalables historiques. C'est le processus de la création qui s'est fait en différentes étapes. Et les étapes sont la correspondance de Rilke, et une autre étape, ce sont ses traductions. Et pour le sonnet à Orphée, il faut surtout considérer la poésie de Paul Valéry. À travers ces étapes, Rilke prépare sa langue idiomatique qu'il va créer dans les sonnets. Au moment où il se met à écrire, cette langue est prête. En 1921, il a étudié et recopié le fameux dialogue platonicien de Paul Valéry, L'âme et la danse. Et c'était juste avant de commencer à rédiger les sonnets. Je me permets de revenir au poème brièvement. La phrase « einer jener Tänze » nous donne ouvre une démarche pour mieux comprendre l'influence de Valéry sur Rilke. Parce qu'au fond, en allemand, c'est une faute de grammaire. Il faut dire « eines jener Tänze ». « Tanz » en allemand, c'est masculin. Et on pourrait prendre pour explication que Rilke a bien connu la poésie et les dialogues de Valéry, où il est question surtout de la danse. Et la danse, c'est un mot féminin. Donc il y a un peu esquissé la spéculation que Rilke pense ici pas au mot allemand pour der Tanz, mais au mot français de la danse. Et la langue poétique de Valéry, qui agit ici comme le sous-texte du poème. Le sens du mot « danse » chez Valéry est la métamorphose des formes, le tourbillon. Et dans son dialogue « L'âme et la danse », il y a Socrate qui met son dialogue en relation avec la danse. Ils observent des danseurs, des danseuses, les trois. Il y a trois qui parlent et ils observent la danse, une danse. Et Socrate met son dialogue en relation avec la danse que les trois interlocuteurs sont en train de regarder. Et pour lui, le dialogue se présente comme un échange de questions-réponses qui se consume en un instant. Donc le dialogue devient une danse. La traduction de Rilke aboutit au mot que nous retrouvons, pour ainsi dire, resémantisé dans le poème. Le terme de danse, dans le dialogue de Valéry, s'appuie sur d'autres expressions, structurant ainsi tout un nouveau champ sémantique. En particulier, les mots « place »,« stelle », »,« marche », »,« gang », »,« pas », »,« schritt » entretiennent un rapport précis les uns avec les autres. « Stelle », pour, et je vous invite à voir l'exemple numéro 4 dans le handout. « ce sont des citations de Valéry. Les conversions, les inversions, les diversions inépuisables. En français, la libération, la variation libère le mot vert. Et en allemand, Rilke introduit une enfilade argumentative dans le résultat et le mot Umstellungen, avec comme noyau le mot Stelle. Rilke traduit die Verwandlungen, die Umstellungen und die Auflösungen. Verwandlung sera identifiée par Umstellung et Auflösung comme la conséquence du processus, regardée comme la conséquence du processus. La dissection du terme Umstellung fait apparaître le terme Stelle, autrement dit, le lieu où s'accomplit la métamorphose. Le terme de Stelle lui-même est une expression propre à Rilke, que l'on retrouve dans les lettres et ses poèmes. Et dans le sonnet au Kommandier, le mot Stelle témoigne de l'analyse du traducteur et se joint au verbe hinzudrehen. Le lieu Stelle est, si l'on interprète le poème, lié au changement. Le verbe français verser serait à la base du terme allemand. Après Stelle, je veux parler sur les mots Gang et Marche, et Schritt, pas et marche. Il y a une différence entre Gang et Schritt. Je me réfère ici au numéro 5. Valérie écrit, elle commence, vois-tu, c'est la danseuse qu'ils observent, à tiqueter. Elle commence, vois-tu bien, par une marche toute divine. C'est une simple marche circulaire. Elle commence par le suprême de son art. Rilke traduit, sie beginnt, siehst du's, mit einer göttlichen Gangart, einem einfachen Gang im Kreis. Sie beginnt mit dem Äußersten ihrer Kunst. Et à propos Schritte, c'est le numéro 6, Valérie écrit, nos pas nous sont si faciles et si familiers qu'ils n'ont jamais l'honneur d'être considérés en eux-mêmes et en tant que des actes étranges. Et Rilke traduit, unsere Schritte sind uns so leicht und so vertraulich, dass sie es niemals zur Ehre bringen, für sich selbst betrachtet zu werden als eigentümliche Handlungen. Le mot gang est, on peut conclure, est une sorte de schritt ennobli. On retrouve gang dans le mot vergänglich du poème et la caractérisation du mouvement des poètes danseurs comme vergänglich ou éphémère implique la notion de pas dansant est ainsi ennobli. La noblesse du gang est ainsi en péril. Il n'a guère de permanence dans le temps, comme j'ai dit dans Gang und Antlitz, dans le vers 14. Voilà, c'est ce que je veux dire sur la sémantisation des mots par Rilke dans ses traductions. Et je veux vous montrer brièvement comment ce travail sur le sens nouveau a lieu dans les correspondances de Rilke. Et ce sont surtout, comme vous le savez bien, ce sont surtout les correspondances avec les femmes. Les femmes à l'époque étaient très familières avec les poèmes de Rilke, et beaucoup d'entre elles sont devenues les correspondantes de Rilke. Elles sont rompues à la poésie de Rilke. Elles comprennent très tôt la particularité idiomatique de ses poèmes. Et Rilke, lui, il a utilisé sa correspondance comme une sorte d'exercice linguistique pour lui-même et pour façonner sa langue poétique. Dans les lettres, et pour leur aider à résoudre leurs problèmes privés, dont il reconnaît les causes sociales. Pour elle, il crée avec, par exemple, le mot Mädchen, un espace pur, protecteur, qui subsiste dans les femmes en tant que potentiel. qui subsiste dans les femmes comme en tant que potentiel. Et c'est pourquoi j'ai choisi quelques phrases d'une lettre de Rilke à Eva Kassira, et vous le trouvez sur la page 3, numéro 7. Et la traduction ici est marquée par... voilà. Et il est vrai, d'autre part, que les circonstances que vous savez ont mené votre vie vers un cours nouveau. À une petite fille, et je ne saurais toujours pas nommer d'autres existences qui me paraissent à ce point ineffables et plus merveilleuses, à une petite fille, l'on est en droit de témoigner toutes les promesses que recèle le sentiment le plus intense. Car en effet, à quel endroit au monde, si ce n'est en elle, tout ce qui reste encore inaccompli trouve son accomplissement. Vous ne vous en êtes, je le crois, tenu à aucune des choses que je vous avais prédites. Mais voilà que désormais vous les menez à bien alors que jadis elles vous surplombaient, tel le ciel et les étoiles, inatteignables, tangibles uniquement sous la forme d'une grande masse d'avenir. Deuxième exemple. Voilà, je ne veux pas dire plus sur le mot Mädchen et presque enfant, qui joue un grand rôle dans les sonnets à Orphée et comme je vous ai expliqué dans notre poème, si l'on parle de la différence entre les Mädchen et le Kind, donc le Kind est un état encore plus pur que l'état déjà purifié des Mädchen. C'est comme il prépare ce mot dans les lettres. Et un deuxième exemple est lié au mot Stelle de nouveau. Et je veux finir par ça. Et pour expliquer la deuxième citation que j'ai mis sur mes feuilles, que je vais lire tout de suite, il faut raconter que Rilke a envoyé à Eva Kassira en 1907 une carte avec le mot Weihnachten et par courrier séparé des livres. Si ceux-ci ne sont jamais arrivés, Eva Kassira s'est néanmoins souvenu des roses que Rilke lui avait envoyées jadis. Le mot Stelle remplace le mot Weihnachten et devient un mot qu'il utilisera dans les textes. Et comme vous allez voir, comme un mot pour un non-lieu. Donc Stelle, qui signifie un lieu, devient un mot pour un non-lieu. Et le mot, c'est un mot que Rilke peut après bien utiliser dans le poème. Et dans les sonnets, Rilke reprend cette notion et en fait un lieu de l'art absolu et mortuaire. Je lis ça. Dans la lettre de Rilke à Eva Kassira de 1907. Mais je sais désormais que face à votre indulgence, ceci pourrait également trouver légitimité, ce seul mot de Noël, qui dans votre souvenir fait réapparaître trois roses blanches. Mais comme je suis ému de ce que vous y avez conservé une petite place, vous n'imaginez pas à quel point ce me serait naturel de revenir encore et toujours déposer quelque chose à cet endroit-là, qui, hélas, se verra dépossédé de toutes les roses pas trop périssables, et où ensuite quelque chose viendra se déposer qui n'a plus rien à voir avec ce qui chez moi fait si rarement et insuffisamment preuve de ce souvenir si souvent évoqué. Pour finir cette petite conférence ce matin, je veux vous donner je veux donner je vous esquisser un peu la fin de la livre. Le livre contient aussi toute une série des portraits des lecteurs de Rilke pour montrer jusqu'où les lecteurs ont su aller dans la compréhension des poèmes et pourquoi, et après l'explication de leurs acquis, j'explique les raisons pour lesquelles ils ne sont pas arrivés jusqu'au bout. Donc c'est surtout, ce sont des philosophes comme Heidegger et Gadamer dont je parle, ce sont aussi des poètes comme Celan, Paul Eich, Walter Höllerer, et aussi des philologues comme Walter Muschk, Paul Hoffmann et Ulrich Füllebaum. Donc je m'arrête ici, le temps est évanoui. Donc, je vous invite à lire tous les passages dont je n'ai pas eu le temps de parler ce matin. Donc, merci.